Bonjour Laurent, ça y est.
Bonjour.
Et c'est donc Richard Ferrand qui sera élu demain président de l'Assemblée nationale, puisqu'il a en effet été choisi par les membres de La République En Marche hier lors de leur séminaire à Tours. Est-ce que vous regrettez, vous, que le temps d'une femme ne soit pas venu, le tour d'une femme ne soit pas venu?
Alors déjà, nous avons une excellente candidate qui est Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée, et qui incarne tout à fait justement la défense des institutions, et nous souhaitons sa victoire. Évidemment, Emmanuel Macron a désigné le candidat d'En Marche. Il ne s'agit pas d'un problème de femme, d'être une femme ou pas une femme. Permettez-moi, et là je vous parlerai à titre personnel, de déplorer le fait que l'on soit presque traité comme des minorités. Il s'agit de compétences. Ce qui est grave dans cette affaire, c'est qu'Emmanuel Macron prend la main, ou garde la main, tout au moins, sur l'Assemblée nationale, qui doit être une institution indépendante, et que le pouvoir exécutif essaie d'étouffer cette institution.
Oui, tous les présidents de la République ont toujours eu un regard sur la personnalité qui était élue à la présidence de l'Assemblée nationale, vous le savez très bien.
Il y a un regard, mais n'est-ce pas plus qu'un regard quand on
voit... Oui, mais enfin, quand je disais un regard, Yael, c'était Militote, vous voyez bien ce que je veux dire.
Vous savez, quand on voit Yael Braun-Pivet qui a fait une pirouette très rapide en quelques heures, puisque le matin, elle dénonçait justement l'image d'ancien monde incarnée par Monsieur Ferrand, et quelques heures après, elle nous expliquait que tout à coup, c'était formidable. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas eu de pression pour avoir un tel revirement. Donc, on voit bien qu'Emmanuel Macron, par ce jeu de chaises musicales qu'il a mis en place en nommant François de Rugy au ministère de l'écologie, a complètement donné les consignes, et les députés En Marche se sont exécutés comme ils ont l'habitude de le faire, puisque à aucun moment on ne sent qu'ils ne mettent l'institution avant leur prise à partie partisane.
Oui. Vous disiez que les Républicains ont une excellente candidate, dont vous souhaitez la victoire, mais dont vous savez qu'elle ne se produira pas. À l'époque où la droite était au pouvoir, il n'y avait pas d'excellente candidate pour la présidence de l'Assemblée nationale?
Je ne vais pas faire le remake, pardon, mais je vous dis que ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Ça, c'est mon opinion personnelle.
Non, mais je vous pose la question, parce que là, aujourd'hui, vous avez une excellente candidate. Je vous demande s'il n'y en avait pas quand la droite était au pouvoir.
Mais on avait d'excellents candidats.
Oui, mais pas d'excellentes candidates.
Oui, peut-être, mais comme je vous dis, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de compétence.
Oui, non, mais ça peut apparaître comme un peu opportun de présenter une femme au moment où,
si vous connaissez Annie Genevard, vous verrez que ce n'est absolument pas opportun. C'est une femme qui a une grande connaissance de l'Assemblée nationale, une grande compétence et qui incarne parfaitement, qui incarnerait parfaitement ce rôle et ce poste. Donc il ne s'agit absolument pas d'une question d'opportunité.
Le président de la République devrait présenter à l'automne sa réforme de l'islam de France, et l'Institut Montaigne a publié dimanche un nouveau rapport sur l'islamisme en France. Si cette vision très rigoriste de l'islam reste très minoritaire, le rapport observe tout de même que ça a progressé de manière très importante au cours de ces dernières années. Est-ce que les gouvernements de ces dernières décennies ne sont pas finalement tous plus ou moins coupables de ne pas avoir agi?
Bien sûr qu'on n'a pas agi suffisamment, mais ce rapport ne nous apprend rien. Pardon, mais le Sénat a rendu un rapport en juillet qui déjà pointait tous les dangers du salafisme et l'inaction du président de la République sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quel est le bilan d'Emmanuel Macron? 4 mosquées salafistes fermées alors que nous en avons plus de 100 répertoriées. Seulement 20 étrangers radicalisés expulsés alors qu'il y en a plus de 3000. Et alors que l'on sait que la prison est un véritable incubateur justement pour la radicalisation, Emmanuel Macron revient sur sa promesse de campagne et n'entrevoit que la construction de 7000 places de prison à la place de 15000. Donc aujourd'hui, le bilan, il est là. C'est que Emmanuel Macron nous promène de rapport en rapport et de promesse en promesse, mais il ne fait rien parce que ce n'est pas un sujet sur lequel il a le courage d'agir. Donc je n'attends rien en particulier, malheureusement, de ce qu'il doit proposer. On verra s'il le fait dans les semaines à venir, parce qu'il est bien souvent dans le déni, justement, de la montée de ce salafisme et dans l'excuse sociale. Donc quand on est dans le déni et dans l'excuse sociale, en général, quand on n'a pas le bon diagnostic, on n'a pas non plus les bons remèdes.
Alors, ce rapport préconise un certain nombre de mesures à prendre, parmi lesquelles l'instauration d'une taxe sur le halal pour financer l'islam en France et ainsi libérer l'islam en France de ses liens avec les financements étrangers. Est-ce que vous croyez à l'efficacité de cette mesure ?
Moi, la question que je me pose quand j'entends cela, c'est déjà de savoir, peut-on accepter que certains centres-villes, comme c'est le cas à Trappes, donc que dans certains centres-villes, il n'y ait plus de boucherie traditionnelle. Il n'y a que des boucheries halal. Est-ce normal ? Je ne le pense pas. La taxe sur le halal, c'est quelque chose qui est brandi depuis un certain temps. Rien de nouveau sous le soleil. La question qu'on doit se poser, parce que j'ai entendu hier le ministre de l'Éducation nationale qui préconise l'apprentissage de l'arabe empêcher le recrutement des jeunes dans les mosquées. Mais quand ces mosquées
prônent... qu'il vaut mieux apprendre l'arabe à l'école que de l'apprendre dans les mosquées, éventuellement des mosquées radicalisées.
Ces mosquées radicalisées doivent être fermées. La véritable solution, elle est là. Mmh. Et ce que propose le ministre de l'Éducation nationale, c'est en fait de s'adapter au problème, plus que de le résoudre. Comment peut-on imaginer aujourd'hui que tous les efforts ne doivent pas être mis dans l'apprentissage de la langue française, alors que l'on connaît toutes les difficultés des enfants, et justement des enfants qui parfois sont issus de familles où on ne parle pas le français, et que leur propose-t-on d'apprendre l'arabe pour limiter le recrutement des jeunes dans les mosquées ? Enfin, on marche sur la tête.
Alexandre Benalla devrait être auditionné le 19 septembre par la commission d'enquête du Sénat. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition, si elle a lieu ?
Nous attendons des éclaircissements parce que pour le moment, nous n'avons eu aucune réponse. Pourquoi Alexandre Benalla bénéficiait de tant d'avantages ? Pourquoi Alexandre Benalla est si protégé ? Le président de la République qui a qualifié cette affaire de tempête dans un verre d'eau, mais on voit bien aujourd'hui que ce n'est absolument pas de cela qu'il s'agit et qu'il s'agit bien d'un scandale d'État puisqu'il y a eu des graves dysfonctionnements au sommet même de l'État. Donc nous attendons de savoir... Pourquoi ? Quel était justement le rôle d'Alexandre Benalla auprès du président de la République ? Mais cette affaire a dévoilé un autre événement qui m'a particulièrement choqué. Parce qu'en parlant de ça, on a entendu que le président de la République aurait ralenti le bus, fait accélérer le bus des Bleus sur les Champs-Élysées. Mais moi, je vais vous dire, ça m'a profondément choqué, cette histoire. Parce qu'en fait, on se rend compte que nous avons un président de la République qui a une gestion totalement narcissique des affaires et qui a mis son propre plaisir de pouvoir faire un exercice de communication avec les vainqueurs de la Coupe du Monde avant même le plaisir des Français. Et donc cette affaire Benalla, si vous voulez, montre dans sa globalité ce sentiment de toute puissance qu'a Emmanuel Macron et en fait dans sa tête c'est « je suis président de la République, je fais ce que je veux ». Eh ben non, puisqu'il y a des institutions, il y a des règles et je pense qu'il est nécessaire maintenant qu'ils comprennent qu'être président de la République, ce n'est pas avoir tous les pouvoirs.
J'imagine que vous avez vu ce sondage IFOP pour le journal du dimanche, selon lequel Nicolas Sarkozy et Alain Juppé sont les deux personnalités qui incarnent le mieux la droite pour une large majorité de Français, à peu près 6 sur 10. C'est Nicolas Sarkozy qui est loin devant, d'ailleurs, avec 83%. Laurent Wauquiez, lui, n'incarne la droite que pour 41% des personnes interrogées. Il est derrière Xavier Bertrand, derrière Valérie Pécresse. Que doit faire Laurent Wauquiez pour remonter son image ?
Alors que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé soient en tête dans l'idée d'incarner la droite n'est pas surprenant. Un a été président de la République et les deux ont été candidats, auraient aimé. Et justement, ce que j'ai à vous dire par rapport à cette étude, rappelez-vous, un an avant l'élection présidentielle, c'est justement dans ce même type d'étude, Alain Juppé qui était président de la République. Et 6 mois avant l'élection présidentielle, c'était François Fillon et nous voyons le résultat aujourd'hui.
Merci Laurent Saillet, bonne journée.